Nous saluons tout spécialement les visiteurs qui sont parmi nous ce matin, peut-être en congé, en vacances, dans cette belle région de Haute-Savoie. Que Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus. Voilà, nous allons lire un premier texte dans la parole de Dieu, un texte qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9. Et au verset 31. Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9 et le verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Le désir du Seigneur, et il faudrait que ce soit aussi le nôtre, que son désir corresponde au nôtre et le nôtre au sien. Le désir du Seigneur, c'est que son œuvre progresse, qu'elle se développe, qu'elle prenne de l'extension, que, comme il est dit ici, elle s'accroisse. Il n'est pas question que l'Église stagne, encore moins qu'elle régresse. Vous le savez, ici-bas, tout ce qui vit grandit ou bien alors meurt. Lorsque nous avons affaire à un végétal, une plante, il se développe. S'il ne se développe pas, il pique du nez, se dessèche et c'est fini. Lorsque un enfant vient au monde, nous nous attendons, nous parents, ceux qui l'ont été ou le seront, à ce que cet enfant se développe. Et s'il n'y a pas de croissance physique, intellectuelle, etc., eh bien, on trouve qu'il y a, à juste titre, une anomalie. Parce que tout ce qui vit, grandit. Et mes amis, l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas une organisation humaine. C'est un organisme vivant, animé de la vie de Jésus par le Saint-Esprit qui lui est communiqué à cette Église. Et à ce titre, comme il est écrit là, l'Église se développe. Nous avons là, dans le texte que nous venons de lire, la norme biblique, le standard divin, le modèle fixé par la parole de Dieu en matière d'Église. Et il faut toujours se reporter à cette Bible qui est le fondement de notre foi. Voyez-vous, il est absolument faux d'opposer la qualité à la quantité. Certains disent, oh, c'est pas grave si on n'est pas très nombreux du moment qu'il y a la qualité. Vous voyez, nous sommes, nous, peu nombreux, c'est vrai, mais des chrétiens hyper sanctifiés. Nous sommes le nec plus ultra des églises évangéliques, on n'est pas beaucoup, mais c'est très bien comme ça. Non, je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Je vois ici, dans le texte qui nous sert de référence ce matin, que les deux étaient présents. L'un n'était pas au détriment de l'autre, et inversement. Mais il y avait ce développement numérique, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et il y avait, n'est-ce pas, cette progression qualitative. Elle s'édifiait, cette Église, et elle marchait dans la crainte du Seigneur. L'accroissement numérique, c'est bien. Parce que lorsque des âmes se convertissent à Christ et qui sont destinées au ciel, c'est autant d'âmes qui échappent à l'enfer. Alléluia. Mais c'est mieux encore lorsque les membres de l'Église grandissent en spiritualité. En tout cas, c'est là aussi, n'est-ce pas, le principe, l'objectif, le but que nous fixe la parole de Dieu. C'est l'apôtre Pierre qui, dans son épître, sa deuxième épître, au chapitre 3 et au verset 17 et 18, concluant son message à ses lecteurs, leur dit ceci: « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Il est bon en tant que chrétien, voyez, converti pour certains de longue date, de se poser des questions. Où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Il faut avoir le courage de se poser ces questions. Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai stagné? Ou alors est-ce que peut-être, hélas, j'ai régressé dans ma foi, dans mon engagement, dans ma motivation, dans mon zèle, dans ma ferveur, dans mon amour pour le Seigneur? Plaise à Dieu que, eh bien, on puisse trouver ce principe dans chacune de nos vies, que nous croissions dans la grâce et dans la connaissance de Jésus, notre Sauveur. Vous voyez, dans la vie, il faut avoir des projets, il faut avoir des objectifs, il faut avoir des buts, il ne faut pas simplement, eh bien, subir les événements, et par la grâce de Dieu, eh bien, avancer dans le programme que le Seigneur trace pour nous. Alors, voyez, puisque nous parlons d'accroissement, et peut-être plus particulièrement d'accroissement numérique, l'accroissement peut se faire de deux manières. Il peut y avoir un accroissement par addition. Je crois que dans notre pays, en tout cas, dans la plupart, sinon la presque totalité des églises évangéliques de notre pays, c'est ainsi que les choses se passent. Par la grâce de Dieu, chaque année, quelques âmes sont gagnées. Ça n'est pas négligeable. Alléluia. La Bible dit qu'il ne faut pas mépriser le jour des faibles commencements. Voyez. Et puis, l'Écriture dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent et qui parvient à la repentance. Ça, c'est une chose. L'accroissement par addition. C'est pas mal. Mais il y a mieux. Il y a mieux. Il y a beaucoup mieux. Il y a, et c'est ce que je vois dans le livre des Actes des Apôtres, l'accroissement, non pas seulement par addition, mais par multiplication. Par multiplication. Par exemple, dans le livre des Actes, justement, au départ, combien de disciples étaient-ils dans la chambre haute? Vous le savez? 120. Voilà. Et lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, le jour de la Pentecôte, que ces croyants ont été baptisés du Saint-Esprit, que Pierre a surgi de leur rang et qu'il a prêché l'Évangile avec autorité, dynamisme, puissance et conviction, l'Écriture dit qu'il y en a 3000, excusez du peu, qui se sont convertis en un seul jour. Vous vous rendez compte? Alors moi j'ai fait le calcul, vous pouvez le faire, ça fait un accroissement par multiplication par 25. 120 par 25, ça fait 3000. Voilà, 120 par 25. 25 multiplié par 25. C'est ce qui se produit dans certains pays aujourd'hui, mes amis. Aujourd'hui, dans certains pays. Je lisais ces jours-ci là le témoignage de ce qui s'est passé, non pas aux temps héroïques, vous voyez, du réveil il y a 90 ans ou 100 ans, mais ces années-ci. Un serviteur de Dieu et son épouse ont été, ça devait être avant-guerre, en Chine, et là ils ont fondé une église. Et puis, ils ont passé le relais à un pasteur chinois, le pasteur Meng, qui a pris le relais au départ des missionnaires. Et puis, le communisme, dans les années 1949, a pris le pouvoir. Et voici que cet homme, ce pasteur Meng, a été arrêté et il a passé de longues années en prison. Ensuite, il y a eu un temps de libéralisation relative et ce serviteur de Dieu a eu la permission de se remettre à prêcher. Et il a rouvert l'église en 83. Elle avait été fermée pendant 27 ans. À cet âge-là, à ce moment-là, il avait cet homme 75 ans. et l'église ne comptait que 30 personnes âgées, voyez. Il y avait plus de jeunes. Lorsqu'il est mort, 20 ans plus tard, donc nous sommes en 1993, lorsqu'il est mort 20 ans plus tard, l'assemblée comptait 14 000 chrétiens adultes baptisés. Alors, un serviteur de Dieu américain a visité ce frère avant qu'il ne meure, parce qu'il est décédé à 96 ans. Et il lui a dit, mes frères, quel est le secret? Vous voyez, peut-être il cherchait un truc, une méthode, un slogan, un principe de leadership, comme on dit aujourd'hui, qui allait dynamiser. Et cet homme, avec un grand sourire, s'est contenté de dire, eh bien, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, nous croyons à l'omniprésence de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est présent partout en même temps. Et le Dieu qui est en Chine, c'est le Dieu qui est en France. Et un tel objectif, voyez, progression par multiplication, est-il inatteignable après tout dans notre pays de France? Mais non, puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas un slogan, ça, que nous sortons facilement de la poche, une expression un petit peu parse partout, mais c'est une réalité, mes amis. C'est une réalité. Alors, nous, peut-être en France, nous avons, en tant que chrétiens, un esprit un peu borné, nous disons toujours, notre pays, c'est pas pareil. Et c'est vrai que la mentalité française est un petit peu spéciale. Les frères qui parfois viennent de pays étrangers sont étonnés de voir combien les Français ont le cœur fermé aux réalités spirituelles. Ça n'est pas toujours le cas ailleurs, mais c'est ainsi. Mes amis, les armes avec lesquelles nous combattons, nous dit la parole de Dieu, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Alors, pour que cet objectif multiplication, accroissement par multiplication, pour que cet objectif soit atteint, il y a bien sûr la part de Dieu, la souveraineté de Dieu, parce que c'est lui qui convainc, alléluia, de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui attire les pécheurs. Amen. Il nous a attirés, vous et moi, non? Vous n'êtes jamais posé la question, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'avais de si spécial? Étais-je meilleur que d'autres? Et pourtant, mon cœur s'est ouvert à la grâce lorsque j'ai entendu la prédication de l'Évangile. C'est le Seigneur qui attire. C'est le Seigneur qui sauve. C'est pour ça que dans le texte que nous venons de lire, il est dit que l'Église, elle s'accroissait comment? Par l'assistance, par l'intervention, par l'action, par l'onction, par la puissance du Saint-Esprit. C'est Dieu qui fait son œuvre, c'est vrai. Mais pour que cet objectif, croissance par multiplication, soit atteint, s'il y a la part de Dieu, notre responsabilité en tant que chrétien est également engagée. Alors ce matin, je ne veux pas vous culpabiliser, vous voyez, parce que des fois, il y a des prédications, boum, on reçoit ça comme un paquet de plomb sur la tête, hein. Les gens repartent du culte avec les oreilles basses parce qu'ils en ont pris plein la tête. Non, je ne veux pas vous culpabiliser, mais je voudrais que vous et moi, nous soyons motivés, nous soyons stimulés, nous ayons vraiment envie de voir dans notre malheureux pays de France la gloire de Dieu se manifester, la seigneurie de Jésus-Christ proclamée, n'est-ce pas? Alors, dans la parole de Dieu, il y a un texte qui nous présente justement les conditions qui nous appartiennent, en tant que croyants, en tant que disciples de Christ, en tant que membres de l'Église, qui nous appartient de réaliser pour que l'accroissement se produise. Regardez, dans le livre des Actes des Apôtres, nous sommes au tout départ, au tout début de la vie de l'Église.
C'est pas, l'apôtre Pierre vient de prêcher, je le disais tout à l'heure. Chapitre 2 des Actes, verset 41. Et il est écrit ceci. Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voyez, ce dernier verset. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est la conclusion et c'est à la fois la conséquence de tout ce qui précède. Bien sûr que c'est le Seigneur qui ajoutait ceux qui étaient sauvés. Mais si le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés, c'est parce que ces croyants, eh bien, en dehors de la souveraineté de Dieu, avaient quant à eux mis en application les conditions ici définies. Alors tout d'abord, on va essayer un petit peu de les analyser. Il est question de persévérance. Persévérance dans quatre directions. Tout d'abord, il est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Voyez-vous ? Il y avait là la primauté, la priorité accordée à la parole de Dieu, à la prédication de l'Évangile, à l'enseignement des Écritures, à la transmission à ces chrétiens de la saine doctrine. Et ces gens-là y prenaient plaisir. Alléluia. Puisqu'il est dit, ils persévéraient, ils persistaient, ils continuaient, ils s'appliquaient, n'est-ce pas, à l'enseignement des apôtres. C'était pour eux une source de grand intérêt. C'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une prolifération des fausses doctrines. Vous savez ça ? Nous croyons que le Seigneur revient. Oui ? Vous le croyez ? Vous savez quoi ? Le diable le sait aussi. Il ne sait pas quand, mais il sait qu'il revient bientôt. Alors, il redouble d'efforts, nous dit l'Écriture, sachant qu'il a peu de temps. Et parmi les stratégies diaboliques qui sont mises en œuvre, il y a, n'est-ce pas, ces tentatives de séduction même qu'il voudrait opérer à l'égard des chrétiens. Nous ne parlons pas de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est pour cela que prolifèrent toutes sortes de fausses doctrines qui se répandent aujourd'hui d'autant plus facilement, eh bien qu'il y a toutes sortes de moyens de transmission. La page imprimée, les DVD, les CD-ROM, Internet, les réseaux sociaux, etc. Et nous pouvons être contaminés, mais oui. Même si nous sommes de bons chrétiens, si nous ne veillons pas, contaminés par ces fausses doctrines. C'est pourquoi, eh bien, il faut mettre en application ce verset-là. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Vous savez, le thème central des Écritures, c'est quoi ? Qui est au centre des Écritures ? C'est Jésus. De la première à la dernière page, tout nous conduit, tout converge vers Jésus. Vous voyez ? Dès le départ, eh bien, prophétiquement, Jésus est annoncé. Quand le Seigneur dit au serpent, là, hein, qui vient de tenter de séduire Ève, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Dans ce verset, il y a une annonce prophétique de l'œuvre de la croix. À la croix, Jésus a été blessé, meurtri, c'est vrai, mais il a triomphé des œuvres du diable, vous voyez. Ça, c'est tout début. Et puis, tout à la fin, l'Apocalypse, la Bible se termine par cette parole.
où il dit, c'est Jésus qui parle, « Oui, je viens bientôt. »
Donc le thème central des Écritures, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Jean termine son évangile, vous lirez ça dans le chapitre 20, le verset 31 de l'évangile de Jean, il dit ceci, « Ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Fils de Dieu et que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Voilà, voilà le thème central de l'Écriture. Jésus, le Fils de Dieu, venant sur la terre des hommes, venant après avoir mené une vie sainte, venant mourir sur la croix pour expier nos péchés, pour subir à notre place le châtiment que nous méritions, ressuscitant d'entre les morts, étant élevé à la gloire du Père, à la droite du Père, et intercédant pour nous. Et si tu crois ce message, tu reçois le salut. Voilà. C'est le message central des Écritures. Et nous devons y persévérer, y prendre plaisir. Ça ne doit pas être fastidieux, lourd, pénible, contraignant que de se réunir avec d'autres enfants de Dieu pour entendre et pour écouter la prédication de la bonne parole de Dieu. Quel que soit le messager, peu importe, quel que soit le messager, le message demeure le même, Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le frère nous l'a rappelé tout à l'heure, hein? Alors, en définissant à partir de ce texte de l'Écriture les bases de l'Évangile, je vous rappelle l'Évangile que je vous ai enseigné, par lequel vous avez cru et par lequel vous êtes sauvés si vous y demeurez attachés. Que Dieu trouve en nous des gens persévérants. Et puis après, ils persévéraient, n'est-ce pas, dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, c'est quoi ça? Communion, ça veut dire littéralement être uni avec. Donc la communion fraternelle, ce n'est pas difficile à définir, c'est être uni avec ceux qui sont nos frères et nos sœurs dans la foi. Qu'est-ce qui doit nous unir? Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3 et au verset 14, il est dit que la charité, c'est-à-dire l'amour, c'est le lien de la perfection. Vous voyez? C'est ça qui doit nous unir. L'amour que nous portons mutuellement. L'apôtre Pierre parlera dans son épître et dira que nous devons avoir un amour fraternel sincère et que nous devons nous aimer ardemment les uns les autres. Un amour fraternel sincère. Je ne résiste pas au plaisir de vous expliquer d'où vient ce mot ou cet adjectif sincère. Aux temps antiques, quand un sculpteur faisait une œuvre d'art, voyez, avec son maillet et son ciseau à pierre, et que malencontreusement il faisait un éclat qui n'aurait pas dû être, voyez, il y avait un trou dans la statue. Quand c'était un sculpteur malhonnête, vous savez ce qu'il faisait? Il garnissait le trou avec de la cire. Mais lorsque vous mettiez la statue au soleil, la cire fondait et on en apercevait le défaut. Et les sculpteurs, les artistes honnêtes garantissaient que leur sculpture, que leurs travaux étaient sans cire, sincères. C'est de là que ça vient. Alors des fois, eh bien, il y a des gens comme ça, ils ont une piété de façade, un amour de façade. Apparemment, ils sont pleins de m'amour, mais dans leur cœur, c'est tout le contraire. Non, la parole de Dieu parle d'un amour fraternel sincère, ça m'interpelle ça. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Vous savez, l'amour chrétien, c'est plus qu'une émotion, c'est un choix. C'est un choix. Je décide d'aimer mon frère et ma sœur. Et parce que je le décide, avec la grâce de Dieu, je reçois le secours qui m'est nécessaire pour apprendre à l'aimer comme je dois l'aimer. Vous comprenez ça? Et il faut que nous fixions ce choix. Ah, nous avons peut-être, mais sûrement, chacun d'entre nous, des atomes crochus avec certaines personnes qui, sur le plan naturel, nous correspondent davantage. Ça, c'est une chose, c'est sympathique, c'est humain, c'est pas que ce soit mauvais en soi. Mais peut-être qu'à l'inverse,
Nous avons des atomes non crochus. Vous comprenez ce que je veux dire? Avec d'autres personnes. Eh bien, même ceux qui ne me correspondent pas, peut-être sur le plan humain, je choisis de les aimer parce que je vois en eux l'image de Jésus-Christ qui les a aimés et sauvés comme il m'a aimé. C'est un choix. C'est un choix. C'est une chose, vous savez, pendant qu'on est tranquillement assis là et moi debout sur l'estrade, de dire « Ok, amen, il faut que ce soit comme ça. » Mais il faut passer à la pratique et maintenir cet état d'esprit même lorsque, eh bien, il y a quelques heures, il y a quelques accros, n'est-ce pas ? Malgré tout, je choisis d'aimer. Même si dans ce désaccord peut-être que j'ai avec mon frère, ma sœur, ça peut se produire. Même si je pense, à juste titre, avoir raison et que lui a tort, au moins partiellement, eh bien malgré tout, cette divergence d'opinion ne m'empêchera pas de l'aimer. Je fais ce choix. Je persévère dans la communion fraternelle. Et puis, il est question aussi de persévérer dans la fraction du pain. Il y a là, bien sûr, une allusion à la Sainte-Cène. Est-il besoin de le rappeler? Participer à la Sainte-Cène, soit se faire non pas d'une manière légère ou désinvolte. Quand l'apôtre Paul explique dans la première aux Corinthiens, chapitre 11, ce qu'il a dit à propos de la Sainte-Cène, il dira ceci, que chacun donc s'éprouve soi-même. Et chaque fois que nous participons avec beaucoup de respect au repas du Seigneur, il doit y avoir cette attitude intérieure. Attention, la Sainte-Cène n'est pas un épouvantail, non, destiné à nous faire craindre que le ciel nous dégringole sur la tête. Non, c'est une occasion de bénédiction, de rendre grâce à Dieu, mais en même temps, il doit y avoir cette attitude intérieure, s'éprouver soi-même, laisser là, au moment où je participe au repas du Seigneur, laissez la parole et l'esprit nous sonder. Et s'il y a quelque part quelque chose qui n'a pas glorifié le Seigneur, ça ne résout pas le problème de s'abstenir. Vous voyez ? Ils ont tort ceux qui disent « Oh, on ne peut pas prendre la Sainte-Cène. » Mais ça ne résout pas le problème. Ce qui résout le problème, mon frère, ma sœur, c'est que tu te repentes, c'est que tu mettes un terme à la pratique de ton péché, si péché il y a, et que dans la foi, tu saisisses la miséricorde de Dieu. Et lorsque ces conditions sont réalisées, même si 30 secondes avant, tu étais indigne, une fois que tu t'es repenti, que tu as décidé de renoncer à la pratique du mal et que tu te réfugies dans la puissance du sang de Jésus, il te rend ta dignité. Alléluia. Et tu es apte à participer au repas du Seigneur. Il persévérait dans la fraction du pain et il persévérait dans les prières. Tout à l'heure, je vous lisais le témoignage de ce pasteur en Chine. Et lorsque ce serviteur de Dieu américain lui a dit « Mais quel est votre secret ?» Il lui a dit « D'une part, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Et puis il a ajouté aussi « Et nous prions beaucoup. » Et nous prions beaucoup. Et c'est vrai que d'une manière générale, il y a quand même dans nos pays occidentaux, dans nos églises, une terrible négligence quant à la prière. Pour beaucoup, c'est une activité facultative. Pas pour tous, je le sais. Heureusement, il y a encore aujourd'hui des gens qui intercèdent, qui se tiennent à la brèche, qui luttent, qui combattent pour que Dieu agisse. Et le Seigneur répond à ces prières-là. Mais ça n'est pas une affaire de spécialistes. C'est tout le peuple de Dieu. Combien de fois, dans les Écritures, notamment dans le livre des Actes, il est dit qu'ils étaient réunis, mais tous ensemble. L'ami, écoutez-moi bien. Le jour où véritablement, tous ensemble, nous serons réunis pour intercéder auprès du Seigneur, nous serons sur le chemin du réveil. Vous comprenez ça? Il y a là une responsabilité pour chacun d'entre nous. Ne considérez pas les réunions de prière, des jeûnes et prières, comme quelque chose d'optionnel, de facultatif, dont on peut se passer. C'est pas mon truc, diront certains. Eh bien, apprends à ce que ça le devienne. Et voyez, quand on participe à ces réunions-là, le Seigneur nous bénit nous-mêmes. Alléluia. Combien de fois, moi, en tant que serviteur de Dieu, je suis arrivé dans un état qui n'était pas des meilleurs, moralement ou spirituellement, dans une réunion de prière. Et puis au cours de ces moments, en entendant les frères et sœurs intercéder, en intercédant moi-même, j'ai été renouvelé, voyez. Le Seigneur a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Eh bien, quand on prie, c'est les deux qui se passent. On donne au travers de notre intercession et on reçoit en même temps de la part du Seigneur. Et puis encore, il est dit, n'est-ce pas, que beaucoup de miracles et de prodiges se réalisaient, s'opéraient par les mains des apôtres. Nous avons besoin de retrouver cette pleine dimension miraculeuse du message de l'Évangile. Et la prière de l'Église soit celle que l'on trouve dans le chapitre 4 des Actes, au verset 29, où ces gens-là, n'est-ce pas, alors qu'ils étaient menacés par les autorités religieuses, ont pu formuler cette requête. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Amen. Attention, il serait faux de dire que parmi nous, plus rien ne se passe. Ce n'est pas vrai. Dieu agit encore aujourd'hui et Dieu répond à la prière. Récemment, un dimanche après-midi, peut-être certains s'en souviennent-ils, nous avons eu une réunion de témoignages. Pour autant que je me souvienne, il n'y a pas eu de prédication, mais les frères et sœurs ont témoigné. Et moi, je me suis réjoui, n'est-ce pas? Nous avons entendu de belles choses. Un frère nous a rendu témoignage de la façon dont il avait été délivré de l'emprise de l'alcool alors qu'il était tout jeune. Une autre sœur nous a rendu témoignage combien elle a été délivrée de ce projet de suicide qu'elle avait avec ses enfants alors qu'elle ne connaissait pas encore le Seigneur. Quelqu'un nous a rendu témoignage de la protection dont elle a été l'objet de la part de Dieu alors qu'elle était sur le lieu où un attentat terrible allait se produire quelques minutes auparavant. Eh bien, le Seigneur lui a fait grâce, etc., etc. Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Mais nous voulons qu'il agisse. Nous avons besoin qu'il agisse et que sa puissance se manifeste de manière plus éclatante. Et puis, également, dans cette église du début, vous voyez, il y avait de la solidarité. De solidarité, de la générosité les uns à l'égard des autres. La générosité, la solidarité, elle doit s'exprimer pour ceux qui sont auprès, mais aussi pour ceux qui sont au loin. Il faut penser au développement de l'œuvre missionnaire. Récemment, j'entendais un frère nous relater qu'une grande église aux États-Unis l'appelait la cathédrale de verre. Peut-être avez-vous entendu parler de ça. Une grande communauté, plusieurs milliers de gens, mais voyez, la vision était étriquée. Disait la mission, c'est nous, c'est ici, c'est notre ville, c'est notre région. Le bout du monde, ça ne nous regarde pas. Mes amis, aujourd'hui, cette église n'existe plus. Elle est rayée de la carte. Parce que Dieu est un Dieu missionnaire. Et il se préoccupe de faire en sorte que la parole de Dieu elle soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Et je crois que lorsque une église locale, et nous nous efforçons de faire en sorte qu'il en soit ainsi, s'implique par sa générosité dans l'œuvre missionnaire, pour faire en sorte que l'Évangile soit annoncé aux peuples qui ne l'ont jamais encore entendu, lorsqu'il en est ainsi, il y a la bénédiction de Dieu. Et puis, vous voyez, c'est remarquable, il y avait une appréciation favorable de ceux qui étaient à l'extérieur de l'Église. Les chrétiens avaient bonne réputation, bonne réputation. Il est dit, là, nous l'avons lu, n'est-ce pas? Il trouvait grâce auprès de tout le peuple. Ceux qui n'étaient pas encore dans l'Église, ceux qui n'étaient pas encore convertis, selon notre expression, n'est-ce pas? Eh bien, ils avaient une appréciation favorable quant à ces chrétiens. Pourquoi? Parce que le vécu quotidien de ces croyants, leur comportement dans la société forçait le respect et glorifier Dieu. Il faut que les gens de l'extérieur puissent nous remarquer. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 12, l'apôtre dira qu'ils doivent pouvoir remarquer nos bonnes œuvres. les chrétiens que nous sommes doivent être des gens spéciaux. Vous savez ça? Spéciaux parce que remarquables, j'oserais même dire, des gens exceptionnels par la qualité de leur moralité. Non pas seulement, évidemment, lorsque nous sommes au culte ou à la réunion, mais dans la vie de tous les jours. Que nous forcions le respect, que les gens puissent se dire, ces gens-là, on partage peut-être pas leur foi, leur conviction, mais en tout cas, nous sommes obligés de reconnaître qu'il y a quelque chose qu'eux n'ont pas et qu'ils ont un comportement au-dessus de tout soupçon. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Et le résultat final, eh bien, il est là. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église qui, ceux qui étaient sauvés. Pas des adhérents, mais des sauvés. Pas des gens simplement qui étaient ajoutés à la liste officielle des membres, ça c'est administratif, mais des gens qui étaient réellement convertis de cœur, des gens qui étaient passés par la nouvelle naissance, qui étaient devenus des disciples se plaçant à l'école du divin maître, Jésus, pour apprendre à faire sa volonté révélée dans sa parole. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, au verset 19, il dira aux apôtres, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Mais ça ne s'arrête pas là. La phrase ne contient pas un point final arrivé à ce passage, mais elle continue, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai prescrit. » Le baptême n'est pas un point final, un point d'orgue dans la vie chrétienne, non, c'est un départ, c'est le début. Et il ne faut pas considérer qu'une fois que j'ai été baptisé, ça y est, j'ai rempli les conditions, je suis en route vers le ciel, tout est bien. Oui, tu es en route vers le ciel. Oui, Dieu t'a fait grâce, mais il faut que, comme on le disait tout à l'heure, dans ta propre vie spirituelle, maintenant, une progression. Et si tu es un disciple, littéralement un écolier, eh bien, il faut que il y ait un accroissement dans la qualité de ta vie spirituelle, voyez. Lorsqu'on est à l'école, lorsqu'on fait ses études, on passe normalement de classe en classe jusqu'à atteindre le niveau supérieur. Eh bien, c'est la façon dont on voit les choses. Non pas se contenter d'un minimum, non pas dire qu'on m'en demande pas plus. Non, Seigneur, je veux apprendre de toi. Je veux aller de l'avant. Vous savez qu'on a beaucoup de choses à apprendre encore du Seigneur. Hein? Même après 40 ans, 50 ans de conversion, le Seigneur est tellement grand par ses œuvres, par ce qu'il est, par ce qu'il fait, qu'on n'a jamais cessé d'apprendre. Et d'apprendre non pas seulement cérébralement, intellectuellement, des choses à propos de Dieu, mais qu'il y ait quelque chose qui se développe en nous. Seigneur, qu'aujourd'hui je sois meilleur que ce que je n'étais hier. Alléluia. Apprendre, à observer, à mettre en pratique tout ce qu'il a prescrit. Et voyez, dans cette église du début, hein, il n'y avait pas seulement un accroissement du nombre des membres, multiplication des disciples, mais il y avait aussi multiplication des églises, à commencer à Jérusalem, ok. Mais peu après, vous lirez cela dans le chapitre 8 des Actes, l'évangile a été annoncé à Samarie. Et ces Samaritains se sont convertis, une église a été fondée là. Et puis quelques temps plus tard, l'évangile a été annoncé à Antioche, en Syrie. Et là aussi, une communauté importante s'est développée, vous voyez. L'évangile s'est répandu, c'est le programme que le Seigneur a tracé. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans notre pays de France, il y a encore, savez-vous, beaucoup de villes qui n'ont pas de témoignage évangélique. Beaucoup d'endroits où Christ n'a pas été annoncé, parfois des villes, des cités, des agglomérations importantes, il faut avoir cette vision pour notre pays de France, pour notre région. Multiplication des églises, multiplication des ministères. Dieu a suscité dans un premier temps les 12 apôtres, mais très rapidement il a suscité de nouvelles vocations en plus des 12.
Il y a eu des hommes comme Étienne. Il y a eu des hommes comme Philippe, de merveilleux évangélistes. Dans Actes chapitre 13, verset 1er, il est question de prophètes, de docteurs. Et le Seigneur a dit, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ils furent les premiers missionnaires, si je peux dire, de l'histoire. Et c'est aussi l'objectif qu'il nous faut avoir, n'est-ce pas? Que le nombre de serviteurs de Dieu s'accroît. Savez-vous qu'on réclame des missionnaires français, c'est étrange mais c'est ainsi, un petit peu partout dans le monde. Seulement on ne peut pas les sortir à la chaîne, c'est Dieu qui appelle. Et c'est Dieu qui appelle, mais c'est aussi l'homme qui répond. Et il faut que Dieu suscite des vocations, et il faut que ceux qui ont reçu la vocation puissent répondre à cet appel divin, n'est-ce pas? Et dans ces domaines-là, il faut aussi qu'il y ait croissance, qu'il y ait développement. Alors, que nous ayons à l'esprit ce triple objectif. Vous voyez, on pourrait dire, ouais, mes frères, c'est les vacances, là, on s'est mis en roue libre, vous savez. Pourriez pas apporter une prédication un petit peu plus passe-partout, le Seigneur est bon, alléluia, qu'il vous bénisse. Ok, d'accord. Mais même en vacances, même en période estivale, même quand on est de passage, eh bien on peut cueillir au vol ce triple objectif qu'en tant que croyants nous devons avoir. Multiplication des disciples, multiplication des églises et multiplication des ministères. Alors prions le Seigneur, mais aussi avec son secours et sa grâce, eh bien efforçons-nous de remplir les conditions qui sont définies ici dans la parole de Dieu. Amen.